Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent 4 émissions sur Bernard Lazare et le monde protestant. Ce Nîmois, libertaire, eut une carrière nationale, voire internationale, singulière. Nous le resituerons dans son époque en parallèle avec quelques protestants qui, comme lui, participèrent à la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, l'affaire Dreyfus et l'identité juive. Et c'est Yves Duteil qui nous accompagnera avec la chanson Dreyfus qu'il composa en 1997 en hommage à son grand-oncle puisque sa grand-mère était la sœur de Lucie Dreyfus.
Le 24 août 1895, Alphonse de Rothschild reçoit une lettre piégée et Drummond de suggérer que l'attentat sans risque dirigé contre le baron serait dans les cordes des révoltés juifs.
Le 5 septembre, Bernard Lazare lui écrit « Monsieur, j'ai dit dans mon livre que beaucoup parmi les juifs étaient des révoltés, qu'on trouvait parmi les ouvriers juifs, qui vivent de salaires misérables, des révolutionnaires participant aux luttes du prolétariat. Mais je n'ai pas dit autre chose. Votre excuse en parlant de la lâcheté des révoltés juifs, et d'ignorer absolument, entre autres choses, leur histoire. Si vous la connaissiez, vous sauriez par exemple de quel héroïsme furent capables les révolutionnaires juifs qui combattirent avec leurs frères russes contre cette abominable autocratie tsarienne que seule la France approuve dans le monde civilisé. Ces révolutionnaires juifs bravèrent eux aussi la mort, la prison, la Sibérie, ce qui est plus héroïque peut-être que de s'exposer à l'horreur anodine de Sainte-Pélagie et des amandes. En effet, Drummond avait connu l'une et l'autre. Le 20 octobre, une nouvelle polémique oppose les deux hommes, mais cette fois-ci dans le journal Voltaire.
Pendant ce temps, le monde ouvrier s'organise. Le congrès de la Fédération des Bourses du Travail se réunit à Nîmes en 1895 et le 23 septembre naît à Limoges la Confédération nationale du travail à partir des fédérations du Livre, des Cheminots et des Bourses du Travail, ce qui pousse l'État à s'impliquer davantage dans le monde du travail.
Nous voici arrivés en 1896. Le lieutenant-colonel Picard, ayant constaté la vacuité du dossier Dreyfus, reprend une enquête méticuleuse qui le persuade de l'innocence du capitaine. En mars, il découvre un télégramme écrit par l'attaché militaire prussien au commandant Ferdinand Esterhazy, un personnage trouble, couvert de dettes, affecté un moment au deuxième bureau. Comparant les écritures, Picard constate que celle d'Esterhazy correspond mieux au bordereau que celle de Dreyfus. Il ouvre alors une enquête, tandis qu'Henri, ombrageux de son nouveau chef, tente de bloquer la situation et que, se méfiant de Picard, le chef d'état-major général déclare « J'estime qu'il peut y avoir des inconvénients graves à lui laisser la direction d'un service aussi important et qui exige un jugement plus sain, plus calme et plus pondéré. »
En février, Lazare a lancé l'action sociale à laquelle collabore Fernand Pelloutier, un socialiste guédiste libertaire, issu d'une famille huguenote, très actif dans les bourses du travail et lui aussi opposé à l'action violente. Remarquons la similitude d'action avec celle du Nîmois Auguste Fabre, 20 ans plus tôt. L'hebdomadaire s'arrêtant dès le numéro 5, avec Pelloutier et Pouget, Lazare tente de lancer un quotidien, La Clameur, et avec Hamon, Le Monde Nouveau, mais sans succès. Poursuivant pourtant son combat pour une littérature réellement engagée, il cofonde le groupe d'art social, un art universel opposé à l'art particulier, considéré bourgeois. Le 16 juin, suite à une requête, Drummond attaque personnellement Lazare dans sa libre parole.
« Vous êtes dans votre race. Vous êtes un exemple de ce goujatisme inconscient qui est inné chez les vôtres et que ni la richesse, ni le succès, ni même une valeur intellectuelle très réelle ne parviennent jamais à effacer. C'est dans le sang. Non seulement, Lazare, je ne vous accorde pas cette autorisation, mais je vous défends de la prendre. Et si vous passiez outre, je vous mènerai sur un autre terrain que le terrain de la discussion. »
Se jugeant offensé, Lazare pria deux de ses amis d'aller trouver Drummond, et le lendemain, les deux hommes, à 20 mètres au commandement, échangèrent deux balles, sans résultat. En juillet, avec Hamon, Pouget et Pelloutier, Lazare participe à l'opération antisocial-démocrate au Congrès socialiste international de Londres qu'il couvre pour le quotidien L'Écho de Paris. Fin juillet, prenant la parole au meeting anti-parlementaire avec plusieurs représentants européens de l'anarchisme et du socialisme anti-parlementaire, il dénonce l'autoritaire et jaloux Karl Marx, infidèle à son propre programme, que l'international dévia de son but.
Mais en même temps, Lazare suit l'affaire Dreyfus et semble même être en contact avec Picard, qui le 5 août rapporte au ministère la culpabilité probable d'Esterhazy. Et le 1er septembre expose ses doutes sur le procès. Le 14, pour confirmer l'accusation de Dreyfus mais laissant apparaître l'illégalité de la procédure, le journal L'Éclair relance la polémique. Et le 16, Lucie Dreyfus demande la révision du procès de son mari pour vice de procédure militaire. Lucie, qui durant 5 ans soutiendra le moral de son époux exilé par une correspondance de plus de 500 lettres.
Le même mois, nouvelle attaque personnelle contre Lazare, cette fois par le Casse-Gueule, un mensuel anonyme ordurier, émanation de la libre parole, et qui n'eut que 3 numéros.
Cervelle glacée de sophiste, rongée par la secrète souffrance de ne se sentir aucun don du Créateur, aucune puissance d'évocation humaine, exaspéré par le succès des autres, il s'est jeté dans l'anarchie avec l'espoir d'en être le philosophe. Car il sentait bien, au fond de lui, cette douloureuse impuissance le ronger, qui flétrit comme une tare les hommes de sa race. Et, plus pauvre, plus dénué qu'une brute, il grelottait avec rage, point dupe de son intellectuel fatras de pion distingué. Seulement, brûlé chez les anarchistes, il a établi son quartier général chez les opportunistes. Il a des bureaux dans 2 de leurs journaux, Le Voltaire et Le Paris.
Et Lazare de répondre à Drummond fin octobre.
Je vous avais prié de le démentir, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas nié davantage que vous fussiez l'inspirateur de cette publication. Si d'autres insinuations sont produites, je serai dans l'obligation de vous en tenir pour responsable de la même façon dont on a tenu autrefois pour responsable de leurs diffamations et de leurs insultes vos amis de la foudre et de l'inflexible. Je vous salue, monsieur, avec la stricte considération qui vous est due. »
Fielleux, Drummond répond. « Ce que je ne m'explique pas, c'est que vous ayez cru devoir vous adresser à moi à ce sujet. La chose n'a aucune importance, mais cela donne tout de même une sale idée d'humanité. Quant aux vagues menaces que contient votre lettre, elles me font tout simplement hausser les épaules. »
Lazare est en Belgique, quand le 6 novembre, il publie « L'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire ». Une refonte moins polémique et complétée du mémoire proposé à Mathieu Dreyfus en 1895. Il démontre l'accusation point par point et demande révision du procès. Cette publication en réalité n'a que peu d'influence sur le monde politique et intellectuel, mais elle contient tant de détails que le général de Boisdeffre, chef d'état-major général, suspecte Picard d'en être l'instigateur et demande au commandant Henri de faire grossir le dossier afin d'éviter toute révision. Faute de preuves, Henri décide d'en fabriquer une. Un faux grossier qu'il joint au dossier, tandis que le lieutenant-colonel Picard est muté en Tunisie et remplacé par Henri dès janvier 1897.
Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi les fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable.
Fin juin 1897, craignant pour sa vie, Picard confie sa découverte à son ami et avocat Louis Leblois, alsacien lui aussi et fils de pasteur, avec mission, si nécessaire, d'en informer le pouvoir politique. Or, en accord avec Mathieu Dreyfus, dès la mi-juillet, Leblois révèle l'information au vice-président du Sénat Auguste Scherer-Kestner, un industriel alsacien protestant très proche de Georges Clemenceau et de Léon Gambetta, considéré comme le protecteur des Alsaciens réfugiés en France. Autorité morale de la République, notre sénateur méfiant enquête, rencontre Mathieu Dreyfus, son collègue Ludovic Trarieux, mais aussi Bernard Lazare et le journaliste Joseph Reynard, qui, dès 1894, avait sollicité le président de la République contre le jugement à huis clos, avant de dénoncer, dans Le Siècle, les faux du commandant Henri ajoutés au dossier. Convaincu par Bernard Lazare, Scherer notifie ses certitudes au président de la République Félix Faure, au président du Conseil et au ministre de la Guerre, qui ne veulent rien entendre.
Il décide alors de se lancer dans le combat pour réviser le procès et entraîne Clemenceau. Le 5 novembre, dans le journal Le Temps, l'historien protestant Gabriel Monod affirme à son tour que Dreyfus a été victime d'une erreur judiciaire. Et le 14, dans le même journal, Scherer publie une lettre ouverte où il affirme l'innocence de Dreyfus. Tandis qu'au Sénat, Ludovic Trarieux réclame la mise à l'ordre du jour d'un rapport sur la trahison et l'espionnage. Rallié, le directeur du Figaro, Fernand de Rodet, laisse alors publier nombre d'articles en faveur du capitaine Dreyfus, dont les accusations contre Esterhazy de Mathieu Dreyfus qui, le 15 novembre, porte plainte officiellement. L'affaire flambe. Zola s'en empare et publie à son tour un premier article dans le Figaro le 25 novembre. Il en écrira deux autres à la suite. C'est alors que les traitants d'intellectuels, Barrès, rompt avec Zola et Blum.
Le 7 décembre 1897, Scherer-Kestner interpelle le Sénat sur le refus de révision du procès, mais, désavoué par ses collègues, Trarieux est le seul à soutenir, tandis que les journaux nationalistes déchaînés le traitent de boche. Cependant, l'armée ouvre un procès à huis clos contre Esterházy, pour l'acquitter à l'unanimité le 11 janvier 1798. Le 8, Trarieux avait publié dans Le Temps une lettre ouverte au ministre de la Guerre pour dénoncer le simulacre de justice et défendre le lieutenant-colonel Picard. Et c'est le 13 que Zola lance dans l'Aurore son célèbre « J'accuse ». Très inspiré, on l'a vu, du mémoire rédigé en avril 1995 par Bernard Lazare, transmis finalement par Mathieu Dreyfus.
Le 15, Le Temps publie une pétition pour la révision avec les noms d'Émile Zola, Alain de France, Marcel Proust, Daniela Lévy, Fernand Greig, Lucien Herr, l'historien Gabriel Monod, Émile Durkheim, le directeur de l'Institut Pasteur Émile Duclos, et puis Jules Renard, le peintre Claude Monet, etc. Jaurès, Dreyfusard tardif, s'engage résolument du côté de Clémenceau à partir de 1899, sous l'influence de Lucien Herr, et se rallie également les Nîmois protestants Auguste Favre, Édouard de Boive, Ernest Denis, Ernest Roussel, Frédéric Paulhan et les pasteurs Raoul Allier et Charles Babu. Le 18, le ministre de la Guerre porte plainte pour diffamation contre Émile Zola et l'Aurore et le colonel Picard est condamné à 60 jours de prison au Mont-Valérien pour faute grave.
C'est un témoin essentiel pour la défense de Zola. Trarieux dépose longuement les 9 et 10 février, relatant les constatations faites sur des pièces essentielles ou démontrant la culpabilité d'Esterházy. Fin février, Émile Zola est pourtant condamné par la cour d'assises à 1 an de prison ferme et 3000 francs d'amende.
Le 17 février, Scherer-Kössner, Trarieux et Thévenet, un sénateur de gauche radical du Rhône, interpellent alors le ministre de la Justice à propos des pièces secrètes au procès de 1894. En juillet, à la Chambre, Cavaignac, nouveau ministre de la Guerre, affirme détenir les preuves irréfutables de la culpabilité de Dreyfus, avec 3 documents extraits du dossier secret. Mais Picard, qui connaissait ce dossier, écrit au président du Conseil que l'une est un faux et 2 sont antidatés. Le ministre porte plainte contre Le Blois et Picard, qui est écroué à la santé. Zola, prudent, s'exile 11 mois en Angleterre, tandis que Jaurès intervient en publiant le 10 août 1898 son article « Les preuves ».
C'est alors que Francis de Pressensé rejoint les Dreyfusards au nom de la défense d'une victime de l'injustice et du racisme. Rompant avec ses attaches sociales, il quitte Le Temps pour l'Aurore, dirigé alors par Georges Clémenceau, et devient l'ami de Zola. Derrière l'injustice d'un conseil de guerre, derrière la résistance à sa réparation, il découvre la coalition du conservatisme social. Si l'affaire Dreyfus et ses conséquences politiques divisent la France en deux, le clivage transcende religion et milieux sociaux. Les intellectuels ne sont pas tous Dreyfusards. La communauté juive s'engage peu. Les protestants sont partagés. Les anarchistes également et les marxistes refusent de soutenir Dreyfus et tel qui opta pour le mouvement dans la mystique du combat, comme Peggy, le déserta à l'heure des implications politiques.
Bernard Lazare, tant qu'à lui, évolue beaucoup à cette époque. Décontenancé par la passivité d'une majorité de juifs français, il doute fortement de la disparition de l'antisémitisme dans les sociétés modernes. En 1895, le franc-maçon Sébastien Faure avait fondé le Libertaire, marrainé par Louise Michel, et devenu l'organe du mouvement anarchiste. sous l'influence de Bernard Lazare, le journal s'engage progressivement aux côtés de Dreyfus. Et c'est encore plus net quand, début 1898, Faure fonde un second journal, le Journal du Peuple, largement financé grâce à Lazare par un comité de défense contre l'antisémitisme.
Chez Lazare, qui se disait très sincèrement athée, l'affaire lui révèle sa propre identité et l'éloigne de l'anarchie. Prise de conscience bouleversante, sous contrainte du caractère de l'identité juive hors de notre sphère confessionnelle. L'affaire révèle des ambivalences de l'assimilation-distinction pour une communauté, conséquence consciente ou non d'une pensée classant les citoyens en catégories sur des critères aléatoires. On sait que dans sa question juive, Sartre considère que le juif est un homme tenu pour juif par les non-juifs. C'est le regard d'autrui qui fait du juif un juif. Ce n'est pas l'histoire ou la religion, ni le territoire qui unissent entre eux les enfants d'Israël. Pour Sartre, les juifs sont tout à fait assimilables, sauf s'ils se définissent eux-mêmes comme ceux que les autres nations ne veulent pas assimiler. Or, le démocrate de bonne foi devient hostile aux juifs si celui-ci se pense comme juif, et c'est cet antisémitisme latent qu'il faut combattre.
En effet, l'antisémitisme politique provoque chez bon nombre de juifs français, déjà à cette époque, une tension entre valeurs universalistes et valeurs communautaristes. On retrouve cela aussi chez certains protestants, partagés eux aussi entre des valeurs universelles pacifistes et un nationalisme où ils se sentent contestés en tant que groupe minoritaire. Beaucoup d'intellectuels et artistes juifs répugnent à choisir et mélangent les deux tendances dans des proportions variables. De Bernard Lazare à Victor Bach, les poètes Gustave Kahn et André Spire, les deux frères Joseph et Théodore Reynard, les universitaires et savants, Émile Durkheim, Lucien Lévy-Brull, Julie Sack, etc., tous Dreyfusards, ce sont autant de positionnements qui oscillent entre affirmation ou esquive selon les priorités données par chacun à la vérité, la justice ou le courage et l'honneur. C'est avec cette ambiguïté que la plupart s'engagent dans la Ligue des droits de l'homme.
Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris, 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour, je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, que j'ai toujours porté l'amour de mon pays bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays.